des vestiges liés au palais impérial de Rome. Et ce graffiti est peut-être la plus ancienne représentation de la crucifixion de Jésus. Peut-être le plus ancien exemple de la croix comme symbole du christianisme. C'est en tout cas ce que les experts pensent, puisqu'ils estiment qu'il a été dessiné entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Ce graffiti est conservé à Rome, au musée du Palatin, pour ceux qui auront peut-être l'occasion d'y aller un jour ou d'y retourner. Qu'y a-t-il sur ce graffiti? Dans un instant, je vous montrerai quelque chose d'un peu plus épuré. On voit sur ce graffiti une forme humaine crucifiée au centre, en haut, et affublée d'une tête d'âne, envers laquelle un personnage, sur la gauche, fait un geste qui peut ressembler à un salut ou à une prière. Voilà, vous avez sur l'esquisse de droite l'essentiel de ce graffiti d'Alexamenos. Cette interprétation que je viens de donner de quelqu'un qui salue ou qui prie cette personne crucifiée correspond à l'inscription qui est écrite en dessous dans un grec, non pas littéraire, mais un grec phonétique, qu'on comprend même quand on ne comprend pas le grec, ou en tout cas une partie, Alexamenos adore Dieu ou adore son Dieu. On peut traduire des deux manières. Dans la pièce attenante à celle où ce graffiti a été trouvé, on a découvert une autre inscription, attribuée à une autre main, et qui dit « Alexamenos fidelis »,« Alexamenos le fidèle » ou « Alexamenos est fidèle ». Et cet autre graffiti, dans cette pièce attenante, est généralement compris comme la réplique à ce graffiti moqueur. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ce graffiti ce matin? Je vous en parle parce qu'à l'évidence, le dessin de ce dénommé Alexamenos priant un homme âne crucifié est une moquerie, une raillerie, à l'encontre sans doute d'un Romain converti au christianisme. Une moquerie qui nous rappelle que les chrétiens de l'époque étaient souvent rejetés, incompris et persécutés. La persécution. En réalité, la persécution des chrétiens a toujours existé. Et elle existe encore aujourd'hui. Et elle s'est même répandue dans le monde entier. Il est vrai qu'elle diffère en nature et en intensité d'un endroit à un autre, d'une époque à une autre. Il n'y a pas un type de persécution, mais des persécutions de toutes sortes, allant des plus anodines et des plus subtiles aux plus sévères et aux plus criantes. Bien évidemment, tout n'est pas comparable et égal dans ce domaine. Être jeté en prison pour sa foi, être mis à mort pour sa foi, n'a rien à voir avec les injures et les moqueries que l'on peut-être même nous-mêmes, subir parce que l'on est disciple de Jésus. Ceci dit, il serait faux et naïf de penser que la persécution ne concerne que certains chrétiens. La persécution sévère et le martyr certainement. Mais qu'en est-il des autres formes de persécution? Qu'en est-il des indifférences, des moqueries, des médisances, des humiliations, des insultes, des rejets, des exclusions, des privations, des méchancetés en paroles ou en actes, des pressions diverses à l'encontre d'hommes et de femmes dont la seule faute, la seule tare, est de confesser le Christ. Jésus a parlé à plusieurs reprises de persécution à ses disciples. Il en a parlé comme d'une évidence, comme d'une réalité logique de cause à effet. Je choisis le texte de Jean 15. Jean 15, versets 18 à 21. « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. Si vous étiez du monde, le monde serait ami de ce qui lui est propre. Si le monde vous déteste, c'est parce que vous n'êtes pas du monde, alors que moi, je vous ai choisi du milieu du monde. Souvenez-vous de la parole que moi, je vous ai dite, « L'esclave n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Jésus parle ici de la persécution comme de quelque chose qui découle logiquement et inévitablement de l'attachement du disciple à son maître, du disciple qui n'est pas plus grand que son maître. « S'ils m'ont persécuté, dit Jésus, ils vous persécuteront aussi. Le monde vous déteste parce que vous n'êtes pas du monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. » Il faut nous souvenir ici que nous vivons dans un monde qui a rejeté celui que nous suivons si nous sommes disciples du Christ. Il faut nous souvenir ici que nous vivons dans un monde qui aime les ténèbres et qui a rejeté la lumière venue dans le monde en Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean écrit dans son évangile, au début de son évangile, la parole, c'est-à-dire Jésus, était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde. Elle était dans le monde et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, cette lumière, et les siens ne l'ont pas accueillie. Oui, les ténèbres ont massivement rejeté la lumière venue en Jésus. Et ces mêmes ténèbres n'ont pas cessé de le faire depuis en rejetant les disciples de Jésus qui portent en eux cette même lumière. La persécution des chrétiens est le résultat de la collision entre deux réalités irréconciliables. Entre ces deux réalités réconciliables, ténèbres-lumière, entre ces deux systèmes de valeurs opposées. Et il est important que nous comprenions bien ces choses. Il ne s'agit pas, bien évidemment, de diaboliser, de tout diaboliser dans le monde, mais de comprendre la réalité des enjeux spirituels qui découlent de la venue de Jésus. De comprendre que ce n'est finalement pas nous qui sommes visés en premier si nous sommes rejetés à cause de notre foi, mais c'est Dieu, c'est le Christ qui est visible au travers de nous, le Christ que nous représentons. Nous suivons un maître qui a été rejeté. Nous suivons un maître qui a été crucifié. Et nous ne sommes pas plus grands que notre maître. S'ils l'ont persécuté, ils nous persécuteront aussi. Ils persécuteront ceux qui lui appartiennent, ceux qui le suivent, ceux qu'il a appelés à porter leur croix. Dietrich Bonhoeffer a écrit cette phrase qui résume tout ce que nous venons de dire. Suivre Jésus, c'est être lié, lié au Christ souffrant. Si Jésus a parlé de la persécution à ses disciples comme d'une certitude, par le lien qui existe entre le disciple et son maître, il en a aussi parlé comme d'une béatitude. Et c'est cette parole qui va nous intéresser ce matin dans le cadre de cette série sur les paroles difficiles, exigeantes de Jésus. Comment comprendre le lien entre la joie et la persécution quand Jésus dit « Heureux ceux qui sont persécutés ». Comment associer bonheur et souffrance ? On comprend facilement dans ces mêmes béatitudes que Jésus déclare heureux ceux qui sont humbles, ceux qui sont doux, ceux qui ont faim et soif de justice, ceux qui sont compatissants, ceux qui ont le cœur pur. Heureux, ça paraît logique. Mais comment comprendre qu'il déclare heureux ceux qui sont persécutés ? Cette béatitude est à minima surprenante et à maxima choquante, dérangeante, inquiétante. Elle peut même susciter en nous de la crainte, de la peur. Comment la comprendre ? Faut-il être masochiste pour suivre le Christ ? Les chrétiens devraient-ils aimer la souffrance ? Certains l'ont pensé. Certains ont pensé qu'il y avait de la rédemption dans la souffrance. Est-ce là ce que Jésus veut dire ? Est-ce là la compréhension qu'il faut avoir de ce lien entre la joie et la persécution ? Nous voilà donc en face d'une béatitude dont nous nous serions sans doute bien passés. Je vous invite à lire maintenant ces versets des béatitudes. Je lis toutes les béatitudes pour resituer les versets qui nous intéressent dans leur contexte. C'est Matthieu chapitre 5, je lis les versets 3 à 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui sont compatissants, car ils obtiendront compassion. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Qu'est-ce qu'une béatitude ? Les béatitudes dans la Bible sont des sentences qui commencent par le mot « heureux ». Et il y en a plusieurs ici, au commencement de ce sermon dit sur la montagne. Comment comprendre ces béatitudes ? Comment comprendre en particulier celles qui nous intéressent ce matin au verset 10 ? L'enseignement du sermon sur la montagne étant pour les disciples, premièrement, pour les disciples, les béatitudes de Matthieu 5 précisent ce que doit être l'attitude du disciple de Jésus, du véritable disciple, bien évidemment, celui qui veut véritablement suivre. À quoi doit ressembler un chrétien ? À quoi doit ressembler un disciple de Jésus ? Les béatitudes répondent au portrait dressé par ces 8 béatitudes. Un portrait fait de 8 coups de pinceau, un pour chaque béatitude. Ceci dit, il nous faut remarquer qu'avant d'être un portrait du chrétien et de ce vers quoi il doit tendre, ces béatitudes sont en premier le portrait du Christ. Je vous avais donné cette citation il n'y a pas longtemps du pasteur et théologien Louis Schweitzer qui écrit « Nous avons sans doute là, en parlant des béatitudes, le plus beau portrait possible du Christ, l'icône biblique la plus précise sur Jésus. Il est en effet à la perfection celui à qui appartient le royaume, celui qui voit Dieu, celui qui est le Fils de Dieu, etc. Le disciple n'est appelé qu'à suivre le maître, son maître, qu'à faire comme lui, qu'à devenir petit à petit comme lui. Les béatitudes dressent donc pour nous le tableau de ce que nous sommes appelés à devenir, l'idéal vers lequel nous devons tendre. Et cet idéal, c'est le Christ lui-même. Ce qui explique pourquoi la barre nous semble si haute quand nous sommes devant ces béatitudes. Quelques remarques préliminaires tout d'abord. Premièrement, j'aimerais rappeler que ces béatitudes concernent tous les disciples de Jésus. Pas seulement une élite, mais toutes celles et ceux qui ont Jésus pour maître. Deuxièmement, Jésus ne dit pas « si vous êtes persécutés », mais « quand vous serez persécutés ». Précisément, heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on répandra sur vous toutes sortes de fausses accusations. La persécution n'est pas présentée comme une hypothèse plus ou moins probable, mais comme une réalité à venir sur le chemin de la suivance du Christ. Réalité pour laquelle il faut se préparer et qui ne devrait pas nous surprendre, qui ne devrait pas surprendre le disciple de Jésus quand celle-ci croise son chemin. Troisièmement, nous notons que notre béatitude, la dernière, contient la même promesse au présent, alors que tout le reste des béatitudes est au futur, à savoir la possession du royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car le royaume des cieux est à eux. Je ne vais pas développer, mais je note simplement ici que la boucle est bouclée, le portrait est terminé. Quatrièmement, nous constatons que dans les versets 11 et 12, qui développent cette dernière béatitude, Jésus change et s'adresse directement à ses disciples. Jusqu'ici, dans les béatitudes, il disait « heureux celui » ou « heureux ceux qui ». Et maintenant, il dit « heureux serez-vous ». Heureux serez-vous. Il est important que les disciples prennent toute la mesure de cette dernière béatitude, qui va bien au-delà des généralités plutôt impersonnelles des premières béatitudes. Jésus entr'ouvre ici une fenêtre sur la vie de disciples qui les attend, une vie où la persécution sera présente. Venons-en au sens de ce que Jésus dit ici. Quel est-il ? Pourquoi le disciple persécuté est-il appelé heureux ? De quelle persécution s'agit-il ? Comment se manifeste-t-elle ? Quelle attitude avoir face à cette persécution. J'aimerais commencer par dire quelques mots sur ce que Jésus ne dit pas ici. En fait, ce ne sont pas toutes les persécutions qui existent sur la terre qui sont en vue ici. Jésus ne dit pas seulement « heureux ceux qui sont persécutés ». Ce n'est pas ce qu'il dit. Mais il dit « heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice ». Et un peu plus loin, à cause de moi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que cette béatitude ne concerne pas les persécutions qui ne sont pas à cause de la justice, qui ne sont pas à cause de Christ. Elle ne concerne pas, par exemple, les persécutions subies par les non-chrétiens. Non pas qu'elles n'existent pas, elles existent. Non pas qu'elles ne soient pas condamnables, elles le sont. Mais ce n'est pas de cela dont parle ce texte. La persécution de certaines minorités existe dans le monde. La persécution de celles et ceux qui défendent certaines causes existe et est condamnable. Tout cela et bien plus encore existe, mais ce n'est pas de cela dont Jésus parle ici. Il parle de celles et ceux qui sont persécutés à cause de la justice, à cause de lui. Cela veut dire aussi qu'il y a des persécutions subies par des chrétiens qui ne sont pas en vue ici. Je m'explique. Il y a des chrétiens qui sont parfois persécutés, rejetés, insultés, humiliés, frappés d'ostracisme, etc. Non pas à cause de la justice, non pas à cause de Jésus, mais parce que ce sont des casse-pieds au nom de Jésus. Parce qu'ils agissent mal en tant que chrétiens, parce qu'ils manquent de sagesse, parce qu'ils sont, par exemple, insistants, voire agressifs dans leur témoignage, parce qu'ils sont peut-être même arrogants au sujet de ce qu'ils croient, et leurs paroles sont blessantes, parce que leur témoignage est un jugement sur les autres, parce que ce sont des fanatiques. J'ai beau être chrétien, si je suis persécuté pour ces choses et d'autres similaires, je ne suis pas dans le cadre de ce que Jésus dit ici. Le rejet, la persécution que je vais connaître ne sera pas à cause de la justice, ne sera pas à cause de Christ, mais à cause de ma bêtise, à cause de mon manque de sagesse, à cause de mon arrogance, à cause de ma folie. Attention donc à bien faire la part des choses et à ne pas nous fourvoyer. Si nous sommes appelés à être témoins du Christ, et nous le sommes, c'est toujours dans l'amour et le respect du prochain. Jamais nous ne sommes appelés à mépriser l'autre, parce que nous avons compris, parce que nous avons la vérité. Jamais nous ne sommes appelés à être des fanatiques. Jamais nous ne sommes appelés à manquer de sagesse. À être témoins de la vérité, oui. À dire l'évangile avec clarté, oui. Mais pas tout le reste. Si je dois être rejeté en tant que chrétien, ce doit être uniquement à cause de la justice, à cause du Christ que je sers et que je suis. Jésus a dit qu'il est venu apporter une épée. Ça sera peut-être un texte qu'on considérera une autre fois. Ce qui veut dire que le suivre a des incidences sur mes relations. C'est déjà beaucoup, et ce n'est pas la peine d'en rajouter par notre manque de sagesse et toutes les choses que j'ai décrites. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 4, va parler des bonnes et des mauvaises raisons d'être rejeté en tant que chrétien. En tout cas, il donne quelques exemples. Bien-aimés, ne soyez pas surpris de l'embrasement qui sévit parmi vous pour vous mettre à l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Ce n'est pas si vous êtes, c'est quand vous serez. Au contraire, réjouissez-vous d'avoir part aux souffrances du Christ, afin qu'aussi vous vous réjouissiez et soyez transportés d'allégresse à la révélation de sa gloire. Pierre, à l'évidence, devait connaître cette béatitude. Si vous êtes insultés pour le nom du Christ, heureux serez-vous, êtes-vous, car l'Esprit glorieux, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Cependant, qu'aucun de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, parce qu'il fait le mal ou parce qu'il se mêle des affaires d'autrui. Voilà de mauvaises raisons de souffrir. Mais si c'est comme chrétien qu'il n'en ait pas honte, qu'il glorifie plutôt Dieu en ce nom. On aurait pu ajouter ici, par manque de sagesse et toutes les choses que j'ai dites. Il y a de bonnes et de mauvaises raisons de souffrir pour le Christ. Attention donc à ne pas nous égarer dans ce domaine. Attention à ne pas créer inconsciemment ou parfois même consciemment dans notre vie du rejet par les autres pour les mauvaises raisons. Attention à ne pas développer un esprit de martyr. Je ne suis appelé heureux, dit Pierre, que si ma souffrance est à cause du Christ. Que si ma souffrance partage les souffrances du Christ. Que si ma souffrance est pour le Christ. Et comme je le soulignais, Pierre dit finalement ici essentiellement la même chose que Jésus dans notre béatitude. Quelques mots maintenant sur les raisons données par Jésus à la persécution dont il parle. Il y en a deux. Je les ai déjà nommées à cause de la justice et à cause de moi, c'est-à-dire à cause de Jésus. Seules les persécutions à cause de ces deux raisons entrent dans le cadre de ce que Jésus dit ici. Que faut-il comprendre ? À cause de la justice peut signifier deux choses. Soit il s'agit de la justice de Dieu, Dieu est juste et je suis persécuté à cause de cette justice de Dieu, soit il s'agit de ce qui est juste, je suis persécuté parce que je fais ce qui est juste. En fait, les deux compréhensions sont possibles, elles sont toutes les deux justes et elles peuvent s'appliquer ici. Pourtant, quand on replace cette béatitude dans son contexte, je crois qu'on est amené un peu plus vers la deuxième option, ce qui est juste. Pourquoi ? Parce qu'il est question dans les béatitudes de ce que les chrétiens sont ou devraient être, de ce qu'ils font ou devraient faire. Et c'est pour ça que, par exemple, la traduction en français courant dit ceci, « Heureux ceux que l'on persécute, parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. » Parce qu'ils agissent comme Dieu le demande. Que veut dire agir comme Dieu le demande ? Eh bien, nous pouvons le dire avec les mots des béatitudes. C'est être pauvre d'esprit, c'est être doux, c'est avoir faim et soif de justice, c'est être compatissant, c'est avoir le cœur pur, c'est être un artisan de paix. C'est finalement vivre les béatitudes. Et quand je vis les béatitudes, quand je vis les sept premières béatitudes, je peux assez rapidement être amené à expérimenter la huitième. La deuxième raison de la persécution donnée ici, à cause de moi, à cause de Christ. J'ai dit précédemment que les béatitudes étaient le portrait du Christ et que les vivre, chercher à les vivre, c'était tendre vers cet idéal qu'est le Christ. C'est pourquoi être persécuté à cause de ce qui est juste et à cause de Christ, c'est finalement à peu de choses près la même chose. Faire ce qui est juste, c'est fondamentalement être comme Jésus. C'est fondamentalement l'imiter, c'est fondamentalement lui ressembler, tendre en tout cas vers cette ressemblance. Et c'est ainsi que la persécution dont parle Jésus ici et qui est dite heureuse existe parce que Jésus est visible au travers de ses disciples, au travers de ce qu'ils vivent. Et cela nous rappelle ce que je disais au commandement que ce n'est pas le disciple dans la persécution qui est premièrement visé, mais le Christ au travers de lui, parce qu'il est visible en lui, quand il est visible en lui. Venons-en maintenant à cette béatitude prononcée sur cette persécution. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. Comment la comprendre ? En fait, tout ce que nous venons de dire, après tout ce que nous venons de dire, la réponse cohérente que nous pouvons donner ici est celle-ci, est dit heureux celle ou celui qui est persécuté à cause du Christ, car cette persécution, et cette persécution uniquement, traduit que le disciple est attaché à son maître, à Christ. Le bonheur, bien évidemment, ici, ce n'est pas d'être persécuté, mais c'est d'être à Christ, c'est d'être attaché à lui. Et quand je suis persécuté à cause de ce qui est juste, à cause du Christ qui est visible au travers de moi, je suis heureux parce que je sais avec certitude en qui j'ai cru et en qui je crois. Alors, ceci dit, il faut ici une extrême prudence. Une extrême prudence parce que cette compréhension nous met sur une ligne de crête. Comprendre la persécution dont parle Jésus comme la preuve, finalement, que nous lui appartenons, que nous sommes sur le bon chemin, peut rapidement, consciemment ou inconsciemment, nous amener à la rechercher, nous amener à créer les conditions pour cela, pour nous rassurer. Et ainsi, nous sortons du cadre posé par cette béatitude. Les apôtres, dans le livre des Actes, n'ont pas recherché la persécution. Mais quand ils l'ont subie, quand ils ont été emprisonnés, quand ils ont été battus, qu'ont-ils dit ? Acte 5, verset 40, « Ils appelèrent les apôtres, les firent battre, leur enjoignirent de ne plus parler au nom de Jésus » et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Sanhédrin, tout joyeux d'avoir été jugés dignes d'être déshonorés pour le nom. Et chaque jour au temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle du Christ Jésus. Tout joyeux, non pas des souffrances qu'ils venaient de subir, mais d'avoir été jugés dignes d'être déshonoré pour le Christ. À cause de Jésus, à cause de leur suivance de Jésus, à cause de ce qui est juste. Mais ce n'est pas tout. Notre texte ne se contente pas de prononcer une béatitude sur ceux qui sont persécutés à cause du Christ. Il est aussi question de se réjouir au verset 12. Pas à cause de la persécution subie, mais à cause des promesses qui sont attachées à cette persécution. Alors je ne vais pas développer ce point, mais il est question ici pour les disciples de se réjouir car le royaume des cieux est à eux, car leur récompense est grande, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui les ont précédés. Jésus invite ses disciples à se réjouir pour tout ce que leur appartenance au Christ implique, pour tout ce que la persécution subie confirme, se réjouir car ils appartiennent au Seigneur, se réjouir car un héritage leur est réservé, se réjouir car ils sont dans la lignée des serviteurs fidèles. Oui, se réjouir et non se venger. Se réjouir et non sauver la face. Se réjouir et non s'apitoyer sur soi-même, se réjouir et non se révolter, se réjouir et non se décourager, se réjouir et non haïr, mais aimer et prier, comme le dira Jésus quelques versets plus loin, pour celles et ceux qui nous persécutent. Se réjouir et même, dit Jésus au verset 12, être transporté d'allégresse. Et dans le texte parallèle à ces béatitudes, donc les béatitudes dans l'évangile de Luc, Jésus va ajouter après les béatitudes une parole très forte. C'est Luc 6, verset 26. Et il dit, malheur à vous lorsque tout le monde parle en bien de vous. Tout le monde ici signifie que ma vie de disciple est insipide, qu'elle manque de sel, qu'elle ne dérange personne, qu'elle n'interpelle personne, au point que tous, hein, le tout le monde est vraiment important dans ce texte, au point que tous disent du bien de moi. Bien sûr, je le redis, nous ne recherchons pas la persécution, mais l'absence de toute forme d'opposition, si c'est le cas dans ma vie, ne devrait-elle pas me questionner ? Est-ce que je partage ma foi ? Est-ce que mes voisins, mes collègues de travail, mes amis savent que j'ai Jésus pour maître? Est-ce qu'il y a une différence entre ma vie et celle que je côtoie, celles et ceux que je côtoie qui ne sont pas disciples du Christ? Y a-t-il une différence? Ne devrait-il pas y en avoir une? Quelle est ma compréhension de ce qu'est un disciple? Est-ce que c'est de ne jamais faire de vagues, de passer le plus possible inaperçu, de ne jamais déranger, de toujours faire consensus, d'être toujours accepté où que j'aille? Est-ce que c'est que tout le monde dise toujours du bien de moi? Est-ce que c'est ça que je recherche? Il n'y a bien évidemment pas de mal à avoir des amitiés en dehors de l'Église, par exemple. Mais si je suis disciple de Jésus, ne devrais-je pas expérimenter un peu quelque chose du rejet qu'il a connu? S'ils l'ont persécuté, ne devrais-je pas aussi connaître quelque chose de ce rejet, puisqu'il vit en moi, puisque sa lumière est en moi? Il y a dans la deuxième lettre à Timothée un verset qui m'a souvent troublé, qui m'a souvent interpellé, je sais que je ne suis pas le seul, et qui dit ceci: d'ailleurs, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Pas forcément emprisonnés, du moins pas en France. Pas forcément battus, du moins pas en France. Pas forcément assassiné, du moins pas en France. Mais la persécution ne se résume pas à ses formes extrêmes, à ses formes les plus violentes et les plus agressives. Dans notre texte, par exemple, il est question d'insultes, il est question de fausses accusations, et pas question d'être lapidé. Si je vis pieusement, si je fais ce qui est juste, ne devrais-je pas rencontrer une certaine forme d'opposition? Combien nous devons veiller à ne pas nous conformer au monde, comme le dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Et je crois que c'est sans doute là une des tentations les plus insidieuses à laquelle nous devions faire face. Ne pas se conformer, c'est ne pas faire comme les autres, du moins quand les autres ne font pas la volonté de Dieu. Sans chercher à choquer ou à déranger, je dois suivre le Christ, son exemple et son enseignement. Et si je le fais fidèlement, si je vis pieusement, si je ne me conforme pas au monde qui a rejeté le Christ, alors, à n'en pas douter, j'expérimenterai quelque chose de notre béatitude. Que faire si je fais le constat dans ma vie que je ne connais finalement aucune opposition ou très très peu d'opposition? La réponse est toujours la même quand nous considérons nos manquements. C'est de regarder peut-être là où je me suis éloigné de Dieu, m'en repentir, et puis revenir à lui. Il est toujours celui qui pardonne et qui relève. Que faire si devant la persécution, parce que j'ai eu peur, j'ai fui, j'ai renié le Christ, à l'instar de Pierre dans les évangiles? La réponse est encore la repentance. La repentance dans l'assurance que Dieu pardonne toujours et qu'il relève toujours. Et puis j'aimerais encore dire qu'il ne faut pas que nous focalisions trop notre attention sur la persécution, comme si elle était la seule capable de nous éloigner de Dieu. Ce ne sont pas toujours les choses les plus difficiles qui nous éloignent de Dieu. Parfois l'abondance y arrive très bien. Souvent le confort y arrive très bien. toutes sortes de choses agréables dont nous jouissons, en particulier dans notre monde occidental, y arrivent très bien. Ces choses très souvent nous endorment spirituellement. Il est temps de m'arrêter. J'aimerais terminer avec ces quelques exhortations que le Seigneur nous aide à bien prendre la mesure de ce que nous avons dit ce matin, qu'il nous aide chacun à faire la part des choses, il y a bien des nuances à mettre, qu'il nous aide aussi chacun à trouver le bon équilibre, les bons équilibres nécessaires pour prendre pleinement notre place dans ce monde qui est si souvent hostile à celui que nous servons. Qu'il nous aide chacun non seulement à supporter la persécution à cause de lui quand elle croise notre route, mais aussi à nous en réjouir. À nous en réjouir parce qu'attachés à ce rejet, il y a toutes les promesses dont parle notre texte. Alors oui, nous avons vraiment besoin du Seigneur pour cela. Je termine avec cette citation de la deuxième lettre aux Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car un moment de détresse insignifiant produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Aussi nous regardons non pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Car ce qui se voit est éphémère, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence. Dieu, en effet, la barre est bien haute. Nous le mesurons peut-être tout à nouveau ce matin. Mais merci parce que tu donnes ce que tu ordonnes et tu couronnes ce que tu donnes. Merci parce que nous pouvons compter sur toi pour vivre à la hauteur, en tout cas tendre à vivre à la hauteur de ce chemin difficile que tu nous proposes. Merci parce qu'il y a aussi la joie de t'appartenir. Donne-nous, Seigneur, des attitudes justes avec nos contemporains. Donne-nous de trouver ces équilibres dont je parlais tout à la fin. Donne-nous de prendre pleinement notre place citoyen du monde, tout en sachant que nous appartenons aussi à toi et à une autre réalité. Merci parce que c'est ton amour que nous sommes appelés à proclamer. Et merci parce que te suivre, c'est avant tout le bonheur ineffable de se savoir réconcilié avec Dieu, de se savoir en paix avec Dieu et de savoir que notre avenir et notre éternité est dans ta main. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité, de nos faiblesses. Nous avons besoin de toi.